Et on va retrouver notre grand témoin. Elle a accepté cette mission pas simple de synthétiser, alors avec un regard volontairement subjectif, c'est le principe, pour cette fin de journée, dernière journée du mois de juin. On accueille Virginie Resson-Victor.
Inutile de vous dire que synthétiser tout ce qui a été dit, c'est quand même...
C'est sympa, hein, la mission.
Voilà, j'ai pas eu la mission la plus facile de la journée. Et puis, pour le lancement de la journée, vous avez annoncé 10 idées. On devait sortir avec 10 idées. Alors moi, j'ai attendu un atelier où on allait construire les 10 idées. Je me suis dit, comme ça, je pourrais prendre note et vous les... Ben non, pas du tout. Donc, je vais essayer. J'ai essayé quand même, malgré tout, de tirer 10 idées de tout ce qui ont été dit, de tout ce qui a été dit depuis ce matin, et qui n'était pas forcément toujours convergent, d'où la simplicité de la tâche. J'ai retenu, par exemple, que et puis c'est aussi dans des échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, de certaines difficultés et certaines tensions, en particulier autour de la ZAN ou des enjeux de verticalisation de l'habitat, que ce serait intéressant qu'on travaille désormais sur un urbanisme de projet plutôt qu'un urbanisme, j'allais dire, quasiment réglementaire, et pour aussi gagner en flexibilité. Et ça rejoint une idée que moi je défends souvent, qui est le droit à l'erreur et le droit à l'expérimentation. À partir du moment où on est dans une période de rupture, on ne pourra pas progresser, on ne pourra pas inventer, on ne pourra pas révolutionner, parce que c'est vraiment ça, c'est au-delà de l'innovation parfois, si on n'a pas ce droit à l'erreur, ce droit à l'expérimentation. Et donc ça, on l'a un peu perdu dans notre culture, mais il me semble que ça va bien aussi avec cette idée d'urbanisme de projet. La deuxième idée qui est ressortie, que j'ai entendue plusieurs fois, c'est la notion de diversité, diversité de disciplines, diversité des acteurs, diversité dans la façon d'habiter les logements, diversité générationnelle. Il y a un projet qu'on n'a pas évoqué, mais moi dont je suis voisine à Nantes, qui est le projet de l'association Lazare, qui est aussi une autre forme de diversité, et dans l'habiter ensemble, que je trouve intéressante aussi. Donc voilà, la diversité, la mixité, dans la réflexion et dans les logements et dans l'habitat. Il y a une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la santé comme indicateur de la qualité du bâti. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que ça a été exprimé, donc je déforme un peu, mais je trouve que associer la notion de santé à la notion d'urbanisme et d'habitat est extrêmement important, d'autant plus que on sait que on a parlé aussi du lien social plusieurs fois. Aujourd'hui, on sait qu'un des principaux indicateurs de santé, c'est le lien social. C'est-à-dire que les gens en bonne santé, le bien-être, procède avant tout, le premier facteur, c'est le lien social. De même que l'isolement est le premier facteur, finalement, de non-bonne santé, si je puis dire. Et de même qu'il y a tous les travaux des lois Laurent, que je vous invite à lire, parce que c'est absolument passionnant, et qui montre que l'indicateur, ça va être un indicateur de richesse, un indicateur de développement, un indicateur de lien social, etc., etc. Donc rapprocher la notion de santé de la notion d'habitat, surtout en période de crise écologique, me semble une idée extrêmement intéressante. Ensuite, il y a l'idée d'Antoine, qui me paraissait assez intéressante aussi, c'est de travailler un peu sur l'analyse du cycle de vie du bâtiment, c'est-à-dire raisonner, y compris la rentabilité, l'amortissement du bâti sur sa durée de vie et pas sur juste la durée d'investissement, et travailler sur la durabilité des matériaux. La notion de matériaux, alors attendez, faire émerger... Ah oui, bah oui. Alors il y a cette formule que j'aime beaucoup, que j'ai entendue plusieurs fois, qui est l'idée de faire émerger la notion d'habiter un territoire, d'habiter un logement plutôt que de loger, de dépasser la simple notion de logement. Et je le rapproche d'une autre idée qui est ressortie pas mal, notamment avec Philippe Madec, c'est l'idée de rester proche de la nature, de la végétation, et on le voit sur tous ces projets. Et ça, c'est aussi bien pour des notions d'ailleurs de bien-être à nouveau, puisqu'on sait très bien maintenant que la biodiversité, vous savez qu'un des quatre services écosystémiques, c'est le bien-être. Et de même que, par ailleurs, pour lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbaine, la présence de hautes tiges et de, qui facilite l'évapotranspiration permet de limiter ce facteur-là. Donc la présence de la nature est dans cette notion d'habiter un territoire et pas seulement de « on pose des logements sur un territoire ». Bien sûr, la densification. Autre idée qui est ressortie de manière assez nette, c'est la notion de densification. Alors, on n'a pas trop prononcé le mot de verticalisation de l'habitat, sans doute parce que on est dans une région qui n'affectionne pas spécialement l'habitat vertical, et pourtant, il y a parfois la nécessité. Non, je ne vais pas dire nécessité fait loi, parce que sinon ça. Mais en tout cas, la notion de densification, et qui est aujourd'hui une des. Et Philippe Madec nous a montré aussi d'autres. Nous a montré qu'il y a plusieurs façons de densifier l'habitat, y compris aussi en réhabilitant l'existant. Je trouve que ça, c'était dans l'économie de moyens et de partir de l'existant, c'est-à-dire faire mieux avec moins, paraît une idée extrêmement intéressante. J'ai retenu l'idée du label de frugalité bordelais, et qui peut être une idée pour accompagner vos métiers, c'est-à-dire donner des indicateurs et qui nous permettent de sortir du seul critère qu'évoquait Antoine, qui est un critère de compétitivité et de rationalité économique. Probablement que l'idée de label, surtout s'ils sont pluri-indicateurs, est quelque chose d'extrêmement intéressant à développer. La notion de matériaux biosourcés qui est ressortie aussi un petit peu pour faire baisser la contrainte économique que représente l'idée de le recours à des matériaux biosourcés, c'est Philippe Madec. Alors ça il l'a pas dit, il l'a dit à midi, c'était l'idée de faire des fiscalités qui permettent de favoriser en baissant par exemple la TVA sur les matériaux biosourcés, là aussi pour accompagner le secteur de l'immobilier dans sa transformation. Donc là, j'en suis déjà à 8 ou 9 idées, je crois.
Oui.
Et absolument. Et il y a la dixième. Alors la dixième, c'est la plus abstraite, mais en même temps, pour moi, elle est fondamentale et elle a été évoquée aussi. C'est l'idée que, finalement, vous, acteurs de l'immobilier, vous êtes des faiseurs d'histoire. Des faiseurs d'histoire, l'histoire avec un grand H. Et là, je reprends la formule de Jean Viard qui disait « Les hommes font l'histoire et la nature... » Enfin, jusqu'à présent, c'est les hommes qui ont fait l'histoire et maintenant, c'est la nature qui va le faire. Moi, j'aime bien l'idée plutôt que la nature fera notre avenir, ce qui rejoint un petit peu d'ailleurs ce que disait Jules Verne et ce que dit Jacques Rougerie. Donc, c'est pour ça, la grande histoire, au sens, il faut transformer. Il faut transformer nos habitats, transformer nos modes de vie. Et donc, en ce sens-là, vous êtes des faiseurs de la grande histoire. Mais c'est aussi des faiseurs d'histoire, des histoires au pluriel. Parce qu'on a bien entendu, aujourd'hui, le problème, c'est plus de savoir-faire. On sait faire. Philippe Madec nous l'a montré. Les différentes, d'ailleurs, on a eu plusieurs vidéos. On voit bien qu'on sait faire. On connaît les techniques, on connaît les matériaux, on connaît la contrainte, on connaît la nouvelle donne, on connaît les objectifs, on sait pourquoi il faut le faire. On a même entendu, alors même si c'est discuté, le fait que la bataille des idées a été emportée. On sait qu'on est capable de grandes choses. Jean Viard rappelait ce matin que le Covid nous a révélé que pour la première fois de l'histoire, avec le confinement et avec le Covid, nous avions été capables de lutter ensemble contre un ennemi commun. Il y a d'autres grandes. Je vous rappelle qu'il y a une autre grande transformation que nous avons réussie, et pourtant personne n'y a consenti a priori. C'est la transformation numérique. On a quand même vécu en 20 ans un changement radical de quasiment de civilisation, puisqu'on est passé à la civilisation du numérique. Et on a parlé beaucoup aujourd'hui des impacts que ça pouvait avoir. Or, cette transformation, elle a été rapide. A été réussie et maintenant elle a gagné absolument tous les milieux sociaux, toutes les zones de la planète. Donc on est capable de faire des transformations extrêmement importantes, profondes, rapidement. Donc on peut, on sait, on a les techniques, on a tout finalement. Et il reste une chose pour massifier. Il reste une chose qui est l'envie. Avoir l'envie de le faire. Alors ça c'est compliqué. Alors, on a parlé de ce qu'on pouvait faire évoluer, par exemple, dans la copropriété, qui est une manière de faire évoluer les envies. On a parlé de des envies qui viennent par... malgré soi, c'est-à-dire dans le projet en Martinique, on voit bien qu'il ne s'agit plus d'une question d'envie, il s'agit d'une question de besoin. On a parlé du fait de sortir du déni sous l'effet des catastrophes. Alors, il est parti, Philippe, mais j'ai une proposition de terme à le faire, c'est la catastrophe anthropique, pour sortir de ce terme de catastrophe naturelle qui ne veut strictement rien dire. Mais elles vont s'imposer à nous, et donc on va sortir du déni, mais ça ne suffit pas, sortir du déni ne suffit pas à créer l'envie, cela dit. On a parlé du fait d'accompagner la société civile, et ça paraît, et l'acceptation du changement, et aujourd'hui c'est une problématique absolument majeure, et donc ça veut dire des nouvelles compétences. Antoine me demandait ce matin de quelles compétences vous avez besoin. Je pense que la notion d'accompagnement des usagers est absolument fondamentale, et en ce sens effectivement l'immobilier, enfin l'ESPI, les diplômés d'ESPI devraient aussi aller vers ces métiers-là, parce que ça va être fondamental pour faire évoluer ces usages. J'ai déjà évoqué le lien social, et donc c'est tous ces récits qu'il va falloir faire progresser, et c'est tout un travail qu'il faut faire là encore en pluridisciplinarité pour apprendre pour tendre vers cette frugalité dont parlait Philippe Madec. Et pour terminer, je vais partager. J'ai hésité beaucoup, et puis finalement je vais le faire. À partager avec vous l'expérience très personnelle qui est la mienne, parce que c'est très très lié au logement. Il y a 5 ans, mon mari est décédé brutalement, et quand il est décédé, j'ai tout perdu, parce qu'on faisait tout ensemble. Non seulement on avait trois enfants, enfin j'ai toujours ces trois enfants, qui étaient très jeunes à l'époque, et puis on avait fondé une société de recherche ensemble, on travaillait ensemble. En plus, on avait des tas de projets, on s'entendait super bien. Enfin, bon, bref, c'était absolument fabuleux. C'était la société de l'abondance. Nous étions dans une famille de l'abondance, dans une vie de l'abondance, abondance d'idées, abondance de plaisir, abondance de projets. Et puis, tout d'un coup, d'une minute à l'autre, parce que ça a été très brutal, tout s'arrête. Et cette société s'écroule, et il n'y a plus toutes ces ressources. Toutes les ressources qui faisaient, finalement, l'abondance qui était notre vie. Et donc je me suis retrouvée avec mes trois enfants, et en plus le modèle économique qui était le nôtre ne fonctionnait plus, puisqu'il était tout, il reposait complètement sur mon mari, ce qui fait que je me suis retrouvée pour le coup dépourvue de ressources, un peu comme la planète aujourd'hui se trouve dépourvue de ressources naturelles. Nous étions à l'époque locataires, on n'a jamais été propriétaires, on était locataires d'une très grande maison à la campagne, en Vallée de Chevreuse, dans un cadre absolument idyllique, sauf que tout d'un coup, je n'avais plus les moyens d'habiter cette maison, et en plus, c'est des moyens, non seulement des moyens pécuniaires, mais c'était aussi des moyens physiques, parce que quand vous avez trois enfants, que vous vivez à la campagne, en gros, vous passez votre temps dans la voiture. Et je devais travailler, donc je ne pouvais pas faire et taxi et babysitter et en même temps travailler. Et donc il a fallu changer de vie. Et vraiment, sur le moment, moi, je n'avais qu'une envie, c'était de laisser tomber. C'est très difficile. Tout d'un coup, il faut remettre tout en cause. Tout ce qu'on a construit depuis 25 ans, ça ne fonctionne plus. Et ça demande beaucoup d'humilité aussi, à ce moment-là, de se dire qu'est-ce que j'en fais. Il ne faut pas abandonner parce que j'ai trois enfants, mais je ne vais pas leur dire, écoutez, mes chéris... désolé, c'était formidable, mais maintenant c'est terminé, papa n'est plus là, on n'a plus les moyens, donc... Non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire aux jeunes aujourd'hui, désolé les amis, mais on n'a plus les ressources, ça sera à vous de trouver les solutions, mais non, on ne peut pas. Et à ce moment-là, je me dis, il va falloir qu'on déménage, moi je vais vivre en centre-ville, parce que les mobilités, je n'ai plus les moyens, je n'ai pas accès à les mobilités, donc il faut qu'on soit en centre-ville pour réduire ce temps de mobilité. Il y a tout un certain nombre de critères effectivement des écoles, la qualité des écoles, on a évoqué ce matin, et donc il faut réfléchir à l'urbanisme d'ailleurs aussi avec ça, la scolarité c'est quelque chose d'extrêmement important, etc. Et donc petit à petit je mets un certain nombre de critères d'accès, de prix, et c'est tombé sur Nantes, comme ça que je suis arrivée à Nantes. Mais pour y arriver, j'avais mes trois enfants. Et donc, ce qu'on a fait, avant d'arriver à Nantes, ce que j'ai fait dès le lendemain, sur le lendemain de la mort de mon mari, c'est que j'ai dit, écoutez, les enfants, on ne va pas pouvoir rester dans la maison. Il va falloir qu'on déménage. Et alors, les enfants, je peux vous dire qu'ils étaient attachés à notre maison, ils y sont nés, ils y ont grandi. On va habiter en ville. Alors qu'il y avait un grand jardin, on avait le chien, les chats, les oiseaux. Enfin bon. Et puis vous aurez peut-être pas votre chambre. Chacun votre chambre, qu'ils avaient bien. Chacun ça, une grande chambre. Donc il va peut-être falloir réduire. Ah ouais, mais alors on pourrait avoir des lits superposés. C'est génial les lits superposés. Ah bah oui. Et on a commencé à inventer ce que serait notre futur habitat, qui ne ressemble d'ailleurs pas du tout à celui qu'on a. Mais ça n'a strictement aucune importance. Ce qui était important, c'est de se mettre dans une disposition où le changement devenait désirable. Et écouter le désir de mes enfants et le construire avec eux, l'orienter un tout petit peu quand même. C'est ce qui nous a permis en moins d'un an de déménager. Alors après, il a fallu trouver le logement à Nantes. Et d'ailleurs, la première personne qu'on a contacté, avec qui j'étais mis en relation, c'est Thierry Immobilier pour trouver une maison, parce que quand vous êtes veuve avec trois enfants pour trouver un logement, c'est pas commode, c'est pas facile. Et donc, finalement, nous sommes maintenant au centre de Nantes, et très franchement, ça reste difficile, c'est pas aussi bien que la maison qu'on avait, mais il y a tellement d'autres choses, et on y est très, et moi j'y suis très heureuse, et je suis très très heureuse d'avoir réussi à vivre ce changement. Je n'ai pas de voiture et je vis très très bien sans voiture. Évidemment, au centre de Nantes, bon, c'est plus facile que quand on est en fin fond en campagne en Vendée, par exemple. Mais voilà, on peut y arriver et ce récit est absolument, à mon sens, fondamental. Voilà, si je pouvais. Donc, vous êtes des faiseurs d'histoires, fabriquez des histoires, racontez-nous des belles histoires. Et je suis sûre que ça nous permettra d'avancer malgré toutes ces contraintes, d'avancer positivement vers la suite de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, vraiment, Virginie, pour ces mots de la fin. Presque, puisqu'on va donner dans quelques instants la parole à Christine. Mais d'abord, un très gros merci, j'avais envie de vous le dire, pour la qualité de votre présence, de votre écoute, de votre attention, bercée par quelques gourdes, dont on se souviendra tous. C'était le moyen de nous réveiller. Merci d'avoir... Enfin voilà, c'est très agréable de voir à quel point la parole peut circuler dans une période qui n'est pas simple, qui est inconfortable. Je fais tous les jours des animations, tous les jours j'entends qu'on est au pied du mur, etc. Mais quand même, il y a de l'optimisme, et des raisons de se réjouir quand même. Voilà. Et donc merci pour ça aussi, même quand on n'a pas de repères, même quand on n'est pas d'accord sur tout. On a ce monde, il est là, nos enfants, et donc on a juste à se retrousser les manches et à garder le sourire. Vous pourrez dire j'y étais, vous étiez au rendez-vous d'Édifice, première édition. Merci à vous.